Radio Okapi. Le journal Belinda Bosuma.
L'escalade du conflit dans l'Est de la RDC entraîne des niveaux records de violences sexistes, de déplacements et de faim, ce qui pousse le pays au bord de la catastrophe si rien n'est fait en urgence. Ces propos sont des dirigeants du comité permanent inter-organisation sur la RDC, déclaration faite hier depuis New York. Célébration aujourd'hui 1er mai de la Journée internationale des travailleurs. Que faut-il pour améliorer les conditions des travailleurs dans le secteur public et privé en RDC? Certains Congolais pensent que c'est une question de volonté et d'organisation. Pour d'autres, il faut mettre en avant le coût de la vie. Des propos recueillis dans les rues de Beni, vous le suivrez dans ce journal. Et puis, affaire de viol présumé dont est accusé le pasteur Pierre Kasambakana, responsable de l'église primitive. Le procès a repris cette semaine devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Pour en parler, nous recevons maître Liévin Gibungula, l'avocat de la partie civile Lisadel. À tous et à toutes, bonjour. Sachez d'abord que l'escalade du conflit entraîne des niveaux records de violences sexistes, de déplacements et de faim dans l'est de la République démocratique du Congo, menaçant de pousser le pays au bord de la catastrophe, cela si aucune action internationale n'est urgente. C'est ce que déclarent à New York les dirigeants du comité permanent inter-organisation sur la RDC. Selon eux, des décennies de conflits et l'urgence humanitaire qui en a résulté ont déjà épuisé et traumatisé des millions de civils. Rien qu'au cours des derniers mois, font-ils remarquer, plus de 700 000 personnes ont été forcées de fuir leur foyer, ce qui porte le nombre total des personnes déplacées à un niveau record de 7,2 millions. Nous y reviendrons dans notre édition de la mi-journée. Pendant ce temps, en Ituri, la nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa demande au gouvernement d'intégrer également les groupes armés actifs dans les chefferies de Babila Bakwanza et Babombi dans le processus de paix en cours avec le gouvernement. Cette structure l'a dit lundi au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Mambasa Centre. Cela pour aider à parvenir à l'inclusivité de ce processus en les joignant à d'autres groupes armés locaux qui ont signé le protocole d'accord la semaine dernière avec le gouvernement représenté par le vice-premier ministre chargé de la défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Jospin Paluku, président de la nouvelle société civile congolaise à Mambasa, explique la situation au micro de Martial Kiza.
Comme il y a une confusion entre les FARDC ainsi que les groupes d'autodéfense qu'on appelle les Wazalendo, des fois qui s'affrontent entre eux alors que ce ne sont pas des ennemis. Ailleurs, il y a les groupes d'autodéfense qui sont en train d'accompagner les FARDC dans la défense de l'intégrité du territoire national, notamment à Rutshuru, à Masisi, mais aussi à Bunia où le ministre lui-même des défenses est venu pour officialiser les civils volontaires qui voudraient accompagner l'armée dans la sécurité de la population. Alors, pourquoi pas à Mambasa? La population de Mambasa aussi a besoin qu'on puisse y prendre parmi les volontaires civils pour accompagner les FARDC dans leurs opérations. Et c'est là que ce soit tout simplement des enfants qui sont fils du milieu.
Pour rappel, cette rencontre de la nouvelle société civile visait à évaluer la situation sécuritaire sur l'axe Mambasa-Makeke où des rebelles ADF et miliciens Maïmaï poursuivent des exactions contre la population. Une délégation constituée de la division provinciale du genre et enfants du Nord Kivu, l'ONG Wild Child et des jeunes filles de cette province séjournent à Kinshasa. Elle est venue plaider pour la prise en compte de la dimension genre dans le plan opérationnel DDR Enfants avec un focus sur l'intégration de la jeune fille. Elle a échangé hier avec le coordonnateur du programme national de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Alphan Poissa était sur place. Voici son reportage.
La délégation du Nord Kivu est venue avec un travail déjà élaboré, un protocole additionnel à soumettre au coordonnateur du PDDRCS. Faustin Kambale, chef des bureaux en charge de la protection de l'enfant, explique.
Nous avons fait une analyse genre et nous avons opté pour l'élaboration d'un protocole additionnel au cadre d'aider enfants pour l'intégration du genre dans le cadre opérationnel. C'était pour nous maintenant un bon moment de rencontrer les coordonnateurs du PDDRCS national et solliciter la prise en compte pour que cela serve d'outil pour apporter réponses adéquates aux enfants associés et sortis au groupe armé.
Le coordonnateur du PDDRCS affirme que ce plaidoyer est inclus dans le premier pilier du plan opérationnel. Il promet de travailler pour la prise en compte de leur apport pour l'améliorer. Abéjan Bosco Bal.
En réalité, leurs préoccupations ont déjà été prises en compte. Nous avons justement un programme genre et enfants. Et nous sommes en train de le redynamiser avec des partenaires comme ONU-FAM, UNICEF. Nous sommes en train de nous occuper justement de tous ces enfants associés aux forces et groupes armés. Et toutes ces filles qui ne sont pas porteurs d'armes, mais qui ont été victimes des violences et de la guerre. Il faut un accompagnement, leur assurer une formation.
Il promet la tenue pour bientôt d'un atelier de validation du travail réalisé par l'équipe du Nord Kivu pour une bonne intégration du genre.
Rendons-nous à Lubumbashi. Les jeunes reporters de l'UNICEF sensibilisent les élèves de l'école Malaika sur le droit des enfants à accéder à un enseignement de qualité. Une activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement, journée célébrée le 30 avril de chaque année. Vanessa Nkongolo nous en parle dans ce reportage.
Est-ce que vous savez que c'est un droit pour nous tous d'étudier?
C'est dans la salle polyvalente de l'école Malaika que cette sensibilisation s'est déroulée. Ici, les filles ont des grandes ambitions.
Mes rêves, c'est devenir mécanicienne.
Moi, dans la vie, j'aimerais devenir architecte pour aider ma famille et construire de belles maisons, créer mon entreprise et devenir importante.
Ceci est le fruit de l'enseignement de qualité que ces filles reçoivent de Malaika. Une école entièrement gratuite, nous confie Sylvain Coche, chargé de l'enseignement dans cette école.
On ne se limite pas seulement à encadrer les enfants, mais on leur apprend d'abord à vivre dans la communauté, à prendre la responsabilité de leur rôle en tant que leader. C'est ainsi que dans notre programme, nous avons mis en place un programme de leadership pour nous permettre à ce que les enfants puissent d'abord, dès le bas âge, incarner ces notions. À part ça, aussi l'entrepreneuriat. Le problème d'entrepreneuriat vient en solution à des situations que nous vivons, des sous-emplois, où les jeunes sont éduqués, mais ils n'ont pas le moyen de s'en sortir.
Les représentants du PROVED de la sous-division Lubumbashi 4, Augustin Mwamba, a lui aussi insisté sur la formation continue des enseignants pour assurer la qualité de l'enseignement. Lubumbashi, Vanessa Nkongolo, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, 113 candidats ont présenté dimanche dernier le concours d'admission à l'École nationale d'administration. Sébastien Malangou, formateur à l'ENA et superviseur de ce concours, a indiqué avant le concours que durant 3 ans, les apprenants seront en mesure de connaître la gestion des finances publiques. On l'écoute.
Nous avons enregistré à peu près 113 candidats du Kasaï oriental. L'École nationale des finances, c'est notre unique centre ou structure qui donne une formation en matière de finances publiques. Ce centre ou notre incubateur s'adresse notamment aux agents et cadres du ministère des Finances budgétaires, des régies financières et des régies financières aussi à caractère provincial. Donc, à l'issue de la formation de 3 ans, les apprenants sont capables de prendre correctement en charge la gestion des finances publiques en province. Et nous voulons aussi souligner que l'École nationale des finances ou les autorités de l'école, notamment le ministre sectoriel, veut faire de l'École nationale des finances une école pilote de référence en Afrique centrale. À la comparaison de l'École nationale des impôts en France, nous espérons que la moisson sera abondante au niveau du Kasaï oriental.
Je vous l'ai dit dans les titres, le monde célèbre aujourd'hui 1er mai la journée internationale des travailleurs. À cette occasion, Radio Okapi a promené son micro dans les rues de Beni, au Nord Kivu. Question, que faut-il pour améliorer les conditions des travailleurs dans le secteur public et privé en RDC? Je propose la réponse de quelques habitants de Beni, propos recueillis par Grévis Salomon.
Je pense que c'est question de volonté et d'organisation. Déjà, nos entreprises ont tendance à être des entreprises familiales. Quand c'est mon petit frère qui est comptable, ça signifie que je peux ou ne pas avoir un contrat avec lui. Déjà, lui-même, il ne sera pas motivé pour travailler sérieusement.
Je crois qu'il faudrait qu'il y ait un système qui va chaque fois contrôler ce genre de trafic, qu'il y ait un système qui va chaque fois mettre à jour les salaires des travailleurs.
Je pense qu'on doit d'abord se rendre compte du coût de la vie puis avec le taux actuel, en tout cas, ça ne va pas.
Les gens qui engagent doivent prendre conscience de l'importance accordée à ces gens. Parce que les employeurs visent seulement leurs intérêts. Les employeurs doivent considérer leurs travailleurs et améliorer les conditions de vie selon la progression de leur entreprise.
Déjà, quand on parle du travail, c'est-à-dire qu'il y a une régulation par rapport à ça. Et quand les entreprises ne respectent pas déjà les SMIC, c'est un problème. Je pense que les entreprises et les travailleurs doivent être au courant des SMIC. Et après, les entreprises ne doivent pas engager beaucoup de gens. N'embauchez pas les gens pêle-mêle.
Lutte contre la désinformation, la mésinformation, les discours de haine et de vulgarisation de la résolution 2717 relative au désengagement de la MONUSCO. Ces thèmes étaient au centre d'un atelier organisé hier à Kinshasa par le Bureau de l'information publique de la mission onusienne en RDC. Objectif, continuer à sensibiliser contre ces phénomènes, notamment ceux liés au processus de désengagement de la MONUSCO par la création d'un groupe amplificateur composé de quelques membres des groupes cibles. Le résultat attendu étant de réduire la violence et la manipulation auprès de la jeunesse notamment, qui est à la fois auteur et victime des propos haineux et des mauvaises informations. Jeff Opela pour le reportage.
L'activité se déroule en deux phases. La réflexion sur les discours de haine et la désinformation face au désengagement de la MONUSCO, mais aussi les actions des composantes civiles et militaires, parmi lesquelles le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH. Alidou Ngapna, chargé de la section rapports et enquêtes sur la situation des droits de l'homme, explique.
Vu la nature de notre travail, on mène des enquêtes sur les violations des droits de l'homme. Si les membres de groupes armés commettent des atteintes aux droits de l'homme ou violations du droit international humanitaire, on doit aller sur le terrain pour enquêter, recenser les victimes, les soutenir, leur chercher des avocats, des médecins pour les soigner, pour qu'ils participent à l'action en justice contre les auteurs présumés.
Judith Axir, une participante, exprime sa satisfaction.
Nous avons eu l'occasion d'être éclaircis sur le processus de désengagement progressif de la MONUSCO sur le territoire congolais. Nous entendons beaucoup de choses, il y a beaucoup de désinformations, beaucoup de mésinformations. C'était une occasion agréable pour nous d'avoir accès à l'information auprès d'une source fiable, c'est-à-dire auprès du personnel de la MONUSCO.
Au cours de cet atelier, l'assistance a eu droit à une production artistique et un concours allant dans le sens de la lutte contre ces fléaux.
Nord Kivu, le secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains, estime que l'ouverture d'une information judiciaire à charge concernant le cardinal Fridolin Ambongo viole le droit à la liberté d'expression en RDC. Maître Olivier Ndole réagit aux poursuites judiciaires enclenchées depuis quelques jours par le parquet général près la Cour de cassation contre ce prélat catholique. Maître Ndole estime que cette action constitue une menace envers les défenseurs des droits humains et qui, à terme, pourrait avoir d'autres conséquences. Maître Olivier Ndole l'a dit à Bernardin Nyangi.
Nous avons eu, je crois, l'année passée, déjà une loi portant protection des défenseurs et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. En moins d'une année, il y a des poursuites, des arrestations contre les défenseurs. Cette demande d'ouverture d'une action judiciaire, je pense qu'il s'agit en quelque sorte d'une inquiétude déjà par rapport à l'espace civique congolais, par rapport même au respect des droits et libertés, par rapport aux défenseurs des droits de l'homme, parce que le cardinal, quand il dénonce une situation, quand il émet une opinion par rapport à la gouvernance, à la gestion de la République, il s'agit non seulement d'un droit constitutionnellement garanti par nos lois et notre constitution de la République, mais également il s'agit de la liberté d'expression et d'opinion que donc ne peut faire l'objet de poursuites pour s'être exprimé.
Province du Maniema, Île Africa, en collaboration avec le Centre pour handicapés au Maniema, tient à Kindu une séance de sensibilisation du personnel soignant, surtout les accoucheuses et accoucheurs de l'hôpital provincial, formation sur la détection des piébots. L'objectif, selon les organisateurs, est d'orienter les cas vers la clinique pour une prise en charge correcte et gratuite. On écoute à ce sujet Germain Longalonga, infirmier orthopédiste du Centre pour handicapés de Kindu. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes ici pour une sensibilisation, mobilisation des
personnel soignant, surtout les accoucheuses et les accoucheurs, ainsi que les infirmiers, pour la détection précoce des enfants qui sont nés avec le piebo varicéen congénital. Pour quand même éviter ainsi que ces enfants-là ne puissent pas traîner afin de développer un piebo négligé et à la longue qui deviendra un handicap physique pour la personne qui est née avec le malformation des pieds. L'apport de ces personnes-là est de pouvoir détecter dès la naissance, donc telles que les accoucheuses ou les accoucheurs, dès que la maman accouche, il faut que l'accoucheur ou l'accoucheuse puisse examiner l'enfant de la tête aux pieds pour qu'il puisse détecter la malformation des pieds. Et si une fois il constate qu'il y a un pied beau, il oriente directement vers la clinique pour la prise en charge. Quand on détecte précocement le pied beau, ça va nous aider à bien corriger et une fois corrigé, l'enfant sera guéri et il ne va plus développer un handicap.
Actualité internationale.
L'Union européenne a annoncé lundi qu'elle va resserrer la vie en matière de visa pour les ressortissants éthiopiens. Bruxelles reproche à Addis Abeba son manque de coopération concernant l'expulsion de ses citoyens vivant illégalement en Europe. La Commission indique que cette mesure est prise en raison de l'absence de réponse des autorités éthiopiennes aux demandes de réadmission ainsi que des lacunes dans l'organisation des opérations de retour volontaire et non volontaire. En guise de représailles, l'Union européenne va tripler le délai de traitement des dossiers dans ce pays, passant de 15 à 45 jours.
L'invité.
Reprise du procès de viol qui oppose la Lisadelle, Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves au pasteur Pierre Kasambakana, responsable de l'église primitive de Lingwala à Kinshasa, marié à une fille présumée mineure. Son beau-père Mabiala Nzuzi et un officier de l'état civil de Kinzamvu étaient au Congo central. Le procès a repris le 29 avril devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. 4 préventions pour 3 personnes dont le viol, faux en écriture, usage des faux et mariage forcé sont en train d'être instruites. La prochaine audience est prévue le 13 mai. Pour en parler, nous recevons l'avocat de la partie civile, Lisadelle, Maître Liévin Gibungula. Il répond aux questions de Jeff Ngoy.
Maître Liévin Gibungula, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La Lisadelle est en procès contre Pierre Kasambakana, pasteur d'une église primitive, accusé de viol présumé sur une fille supposée mineure. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Si vous pouvez quand même nous rafraîchir la mémoire sur l'historique.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il s'agit de RP 30501, où les pasteurs de l'église primitive, Pierre Kasambakana et monsieur Mabiala Nzuzi, et enfin monsieur Jean Ngoma Zantoto, sont tous poursuivis, et les pasteurs poursuivis pour viol d'enfants, et les faux en écriture, monsieur Mabiala Nzuzi poursuivi pour mariage forcé, faux et son usage en écriture, et aussi monsieur Jean Ngoma Zantoto, qui est un officier de l'état civil de Congo central vers Kinshasa, également poursuivi pour faux et son usage en écriture. Il s'agit concrètement de quoi? Monsieur le pasteur Pierre Kasambakana, il s'est spécialisé dans la prédication des mariages des enfants mineurs. Alors lui-même s'est marié à plusieurs enfants qui sont là chez lui, et même dans ses prédications, il exhorte ses fidèles d'aller se marier à des filles qui sont âgées de moins de 18 ans. D'où lui-même s'est marié à la fille Meda, la fille de monsieur Mabiala Nzuzi, qui est également en détention et qui comparait ensemble avec le même pasteur pour avoir donné sa fille âgée de moins de 18 ans dans un mariage.
Mais qu'est-ce qui prouve que la fille est moins de 18 ans, puisque son père qui l'a mariée, il insiste que sa fille était mariée déjà majeure?
Exactement, c'est le débat que nous avons eu au tribunal. Le père de l'enfant dit que son enfant est âgé de 18 ans. Nous avons demandé qu'il apporte les preuves. Les droits positifs congolais a prévu les moyens par lesquels vous pouvez justifier, dont la détention, soit l'obtention d'un acte de l'état civil. Les pasteurs et le père des enfants, ils ont brandi une attestation de naissance qui atteste que cet enfant était né en 2005. C'est cette attestation qui a été contestée, dont monsieur Jean Ngoma Zantoto, le chef de l'état civil qui avait délivré, a été arrêté pour qu'il dise dans quelles circonstances et sur la base de quels documents il a donné. Heureusement, et nous avons beaucoup remercié ce monsieur qui est en train de coopérer avec la justice, il a bel et bien dit à l'audience publique d'hier, le 29, devant les juges, que ces documents, il a établi au mois de janvier 2024. Mais sauf celui qui est parti lui demander qu'il l'établisse, il lui a demandé de l'établir que c'est un document délivré en 2022, qu'il a antidaté. Le père de l'enfant dit, parce qu'il est aux arrêts, parce que beaucoup de personnes ne savent que c'est le père de l'enfant-là, est parmi les inculpés. Aujourd'hui, il est prévenu parce qu'il était au parquet, maintenant il est prévenu.
Est-ce qu'il est passé aux aveux? Il a reconnu que sa fille était mineure?
Comme vous venez de le dire, il n'a pas reconnu ça. Le père de l'enfant continue à prétendre que son enfant était majeur. Mais sur base de quel document? Il n'a produit aucun...
Et vous avez produit quel document?
Nous avons produit. Nous avons participé à la commission rogatoire en tant qu'organisation de la société civile. Nous avons fourni les éléments, aidé le ministère public à envoyer un agent au niveau de l'école où l'enfant a étudié. Il y a plusieurs bulletins que cet enfant est né en 2009.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre quelqu'un, je parlerai de la fille, qui aime son mari, qui n'a pas été forcé à se marier, donc il y a eu consentement?
D'abord, avant même d'arriver à répondre à votre question, je vous dis que le débat que nous avons eu au tribunal, c'est celui-là. Le père de l'enfant dit qu'il a donné en cadeau sa fille à son pasteur. Et le pasteur dit que lui n'a jamais demandé. Par contre, c'est le père qui lui avait proposé et il lui a supplié plusieurs fois pour qu'il puisse prendre cette fille.
Cadeau en guise de quoi?
S'il vous plaît, c'est pour vous dire que l'enfant n'a jamais été contacté, même proposé pour... Alors que le problème de mariage, c'est l'homme lui-même qui doit aimer la femme et aller vers la femme, selon nos us et coutumes. Et selon les codes de la famille, le consentement pour un enfant de mineur est inopérant.
Est-ce que vous allez défendre quelqu'un contre son gré?
Là, nous ne partons pas défendre quelqu'un contre son gré. Il faut que les gens comprennent les choses. Ici, la Lise Adèle s'est constituée partie civile contre les pasteurs et le père de l'enfant.
En quoi cela vous a lésé comme partie civile?
En tant qu'organisation de la société civile qui défend les droits des enfants, du fait que les droits des enfants sont violés en République démocratique du Congo, la Lise Adèle est préjudiciée profondément. C'est comme si la Lise Adèle ne fonctionne pas.
Merci beaucoup.
Maître Liévin Gibungula, avocat de la partie civile Lise Adèle, répondait aux questions de Jeff Ngoy. Notez que les partis défenderes ont promis de réagir et nous vous proposerons leur son des cloches dans nos prochaines éditions. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.